autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs. Pour cette saison de rediffusion des moments forts de l'année, nous vous proposons aujourd'hui de repousser nos limites sur les traces de chercheurs pas tout à fait comme les autres. Toujours debout, malgré le handicap, toujours sportif aussi et plus chercheur que jamais. Après l'accident, la paralysie, ils ont réorienté totalement leurs recherches pour expérimenter et développer de nouvelles thérapies neuro-rééducatives. Comment refaire du vélo par électrostimulation quand on a perdu l'usage de ses jambes ? Quelles interfaces cerveau-machine inventées pour revivre autrement et remarcher, repédaler, voire skier ou même surfer ? Que peut la science face au handicap ? Pourquoi ces recherches extrêmement stimulantes à la frontière de la science et de la science-fiction interroge également profondément notre humanité. Voilà ce que nous avions cherché à comprendre en octobre dernier avec nos invités, le physicien franco-américain Vance Bergeron, qui dirige cette unité de recherche spéciale au sein de l'École normale supérieure de Lyon, et Amine Metani, chercheur en rééducation neurologique. Tous deux étaient en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Rhône-Alpes à Lyon, autour de la question « Comment réparer les hommes ? Comment être toujours debout ?» C'est le titre du documentaire qui a inspiré notre réflexion et notre admiration.
On est bon ?
Oui.
Vas-y, vais monter. Ça, c'est une chouette chaise roulante. Tu vas te faire voir. Il monte. C'est pas que ça qui est la chose de plus. Ouais. Mais je peux bouger. Oui. Je peux bouger pendant que je suis debout. Et ça, c'est plus rare. Particulièrement pour une chaise aussi petite. Et ça, c'est une produit française. C'est Life Stand. Mais les chaises, et ça c'est le chose que j'aime, c'est qu'il bouge bien. Et je suis comme dans le Segway, tu vois.
Je vais au marché avec
ma fille, juste comme ça. Et personne ne me regarde trop. Il me regarde un petit peu comme ça, mais pas comme un handicapé, mais c'est plutôt comme un nouveau Segway.
Bonjour Vance Bergeron.
Bonjour, bonjour Karine.
C'est vous que l'on vient d'entendre dans ce documentaire « Toujours debout » réalisé par Marina Julienne et Raphaël Girardeau, tourné dans votre laboratoire, dans votre unité de recherche à l'École normale supérieure de Lyon, où vous avez aussi monté l'association ANS, alors c'est l'acronyme anglais pour Advanced Neuro Rehabilitation Therapy and Sport. Vous êtes chercheur en physique, Vance Bergeron, spécialiste de matière molle et grand sportif. Jusqu'à donc cet accident qui vous a rendu tétraplégique, c'était le 7 février 2013, et votre vie a basculé.
Exact, ouais. C'était une matinée, comme tous les autres. J'étais en train de trajet pour aller au boulot, et j'étais percuté par une voiture sur le côté. Tout de suite, je savais que j'étais paralysé. Et j'étais pas en douleur à le moment, mais je savais que j'étais paralysé, mais je savais à le moment aussi que la vie ne va pas finir là et je vais continuer. J'étais tout de suite lucide sur cette fête-là et voilà, et je me trouve maintenant handicapé, tétraplégie, je ne peux pas utiliser mes jambes ni ma main, mais je peux utiliser ma tête.
Ah oui, vous pouvez utiliser votre tête et votre tête de chercheur, parce que vous avez, au fond, j'ai l'impression, tout de suite réagi en chercheur, Vance.
Exactement. J'étais à l'hôpital, j'avais pas grand chose à faire, j'étais au lit, mais j'ai eu mon ordinateur et j'ai le réflexe comme une chercheur pour regarder qu'est-ce qui se passe avec moi-même et qu'est-ce que je peux faire pour moi-même. Et c'était à ce moment-là que j'ai découvert dans le domaine de la handicap moteur, il y a une technologie qui s'appelle Functional Electrical Stimulation, stimulation électrique fonctionnelle. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on stimule le muscle avec une petite courante électrique qui contracte le muscle. Et si on fait ça intelligemment, on peut contracter le muscle dans une façon pour servir à quelque chose, ça veut dire quelque chose fonctionnel. Bouger la main, bouger les jambes, pour faire le vélo, par exemple.
Et donc, vous avez développé, on va y venir, cette électrostimulation. Il faut dire que vous êtes bien entouré avec votre équipe de chercheurs, hein, composée à la fois de chercheurs handicapés, sportifs, mais pas seulement. Bonjour Amine Metani.
Bonjour Caroline.
Alors vous, vous êtes docteur en biophysique et ingénieur, aujourd'hui chercheur en rééducation neurologique. Vous supervisez notamment les réalisations des prototypes développés dans l'équipe de Vance Bergeron. Il faut dire que vous avez passé votre thèse en biophysique avec Vance avant son accident. Vous aviez ensuite mis votre science, si j'ose dire, entre parenthèses pour vous consacrer à votre autre passion, la musique. Vous êtes compositeur et producteur, on y viendra. Est-ce qu'on peut dire, Amine, que c'est un peu l'accident de Vance, la création de ce laboratoire de recherche innovante en rééducation neurologique qui vous a donné envie de revenir à la science, de poursuivre vos recherches ?
Je serais revenu à la science au bout d'un moment, mais c'est sûr que l'accident de Vance a été déterminant dans le timing de ce retour.
Votre moteur à vous, c'est quoi, Amine, dans ce laboratoire ?
Mon moteur, ça a toujours été les applications médicales de l'ingénierie. C'est ce que j'ai cherché à faire depuis le départ. C'est d'ailleurs sur un sujet médical que j'ai eu l'occasion de rencontrer Vance alors que j'étais encore étudiant, puis de travailler avec lui pendant ma thèse. Donc en réalité, c'était directement dans la continuité de ce qui me motive dans mon travail, même si c'était dans une discontinuité en ce qui concerne les thématiques.
Autour de la question aujourd'hui, comment réparer les hommes ? Alors je sais, Vance Bergeron, que vous n'aimez pas trop ce mot, vous n'êtes pas d'accord avec ce mot de réparer. Expliquez-nous pourquoi.
D'abord, réparer, ça veut dire on est cassé, je ne sentais pas de cassé. Mm-hmm. Je n'avais pas de cet esprit-là. Et je pense, comme à Vance, je suis en train de toujours essayer pour maximiser mes potentiels. C'est pourquoi j'étais sportif d'ailleurs. C'est pour toujours pousser, pour faire meilleur, pour maximiser ce que j'ai. Et c'est exactement la même démarche aujourd'hui. Et donc je ne sentais pas tout à fait cassé. Donc la notion de réparer, ce n'est pas ma notion. La notion de maximiser ce que j'ai, sous la main, c'est vraiment ma vision de la chose.
Et votre vision de chercheur, de sportif, aux limites, hein, qui se pousse lui-même, finalement, votre constat, quand vous avez été cloué sur votre lit d'hôpital, c'est que finalement, les réponses qu'on vous proposait n'étaient pas à la hauteur, en tout cas, de votre engagement à vous.
Ouais, c'était plutôt ça. Hein. Et j'étais... Et j'étais un petit peu, j'ai réalisé, si j'ai besoin, si je vais en avant, il faut que je prenne les choses en main, et moi créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'était ça, ce que j'ai fait. J'ai cette volonté de pas poser trop de questions et pour foncer. Et c'est ce que j'ai fait.
Et foncer à une heure où, au fond, les technologies sont aussi matures pour foncer. Il y a l'électrostimulation, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup d'autres technologies numériques utilisées par les neuroscientifiques qui peuvent être développées. C'était ça aussi votre constat.
C'est ça, parce que j'ai constaté, j'ai regardé les choses comme avant, exercice, mais cette fois-là, c'est plutôt l'exercice de le système nerveux central. Ça veut dire, moi, avec un blessé médulaire comme ça, en fait, c'était le moelle épinière qui est abîmé. Mm-hmm. Donc, le cerveau qui marche et aussi le périphérique qui marche aussi. Hein. Par contre, c'est la communication entre le cerveau et le périphérique qui ne marche pas. Et finalement, nous, on a regardé, il y a le BCI, le Computer Brain Interface cerveau-machine,
oui.
qui peut envoyer des signaux, et après ça, il y a l'électrostim qui peut agir le membre qui sont paralysés. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on utilise le signaux de le computer interface cerveau-machine pour contrôler le stimulateur qui va contrôler le muscle. Donc, dans une sorte, on court-circuit le moelle épinière. Et on passe directement à le muscle.
Autour de la question comment court-circuiter la moelle épinière, comment rester toujours debout, nouvelle question pour vous, soulevée par Alexandre Lacroix, écrivain et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qui était récemment notre invité.
Une question que je me pose par rapport au handicap, c'est que très souvent, la médecine, qui est le fait de médecins bien portants, non handicapés, veut ramener en fait à une certaine normalité le corps blessé, le corps handicapé. Donc on considère qu'on a guéri le handicap si on l'a ramené à une forme de normalité. Or, on pourrait peut-être aussi imaginer que la blessure ou le handicap peuvent être l'occasion de développer de nouvelles aptitudes, en fait, que les gens entiers, bien normaux, n'ont pas. Je pense ici à quelqu'un comme Joël Bousquet, qui a été immobilisé pendant la Première Guerre mondiale par une balle, qui lui a sectionné la moelle épinière, et qui a développé une œuvre qui tourne tout entière autour de l'immobilité et de cette occasion de rêverie presque métaphysique qu'elle est pour lui. Et je pense aussi, alors dans mes rencontres, j'ai rencontré un certain nombre d'aveugles, dont un type qui est devenu aveugle suite à une attaque du cytomégalovirus, donc quelqu'un qui a perdu la vue à 32 ans, mais qui a un moral d'acier. Et cet homme-là disait « J'ai vécu le fait de perdre la vue comme l'occasion d'explorer un nouvel univers. » Ça m'a bluffé et je me demande si c'est pas de cette phrase-là qu'il faudrait partir. Est-ce que le handicap ou la blessure ne peuvent pas être l'occasion d'explorer de nouveaux univers ?
Est-ce qu'on peut partir de là, Vance Bergeron ? Est-ce que c'est pas un peu exagéré, un peu too much, comme vous diriez dans
je
votre
sais
langue
pas, j'ai plutôt aimé cette point de vue. Mm-hmm. J'ai une petite phrase en anglais qui j'aime bien, qui s'appelle « Bloom where you're planted ». Ça veut dire « fleurir où vous êtes
planté ».
Et j'aime bien ça parce que, en fait, on a une vision de les choses positives. Toujours en train pour faire le meilleur avec ce qu'on a. Et finalement, quand on est handicapé, on a le nouveau contraint. Et j'ai pris un petit peu comme un jeu, dans un sens, comment je peux... ce nouveau challenge, quoi. Et comment je peux réussir avec ce nouveau contraint. Et on découvre, en forçant à faire ça, on découvre les nouvelles choses. On découvre aussi un nouveau monde. J'étais un petit peu à vogue, entre guillemets, mm-hmm. de le handicap lui-même. J'ai passé chaque jour devant l'Intermarché, comme tout le monde. Et aujourd'hui, quand je passe, je vois le monde différent. L'accessibility, par exemple, le regard des autres aussi. Et tout ça ça a fortement changé. Pas pour le négatif, hein, c'est un changement. Et je pense pour le positif, parce que c'est une nouvelle découverte. Hein.
C'est une découverte qu'on fait aussi en regardant ce documentaire Toujours Debout. On écoutait au début de l'émission cet extrait où l'on vous voit debout dans une chaise roulante, debout. Et effectivement, on se rend compte à quel point ça change le regard que nous, entre guillemets normaux, on porte sur les handicapés. Quand on vous regarde de haut dans votre chaise roulante, c'est différent si on vous regarde à hauteur d'homme ou même si vous êtes un peu augmenté par la technologie.
Oui. En fait, c'est une chose qui est assez sympathique. Hein. Quand je suis debout dans mon chaise roulante, les gens n'avaient pas l'habitude et je promenade dans l'Intermarché ou juste dans le public. Et avec ma fille à côté, les gens, ils ne me regardent pas comme un handicapé. Et en fait, hey, c'est cool, qu'est-ce que tu fais là hein? Et en fait, ça semble tellement comme une Segway.
Oui, comme ces roues sur lesquelles on peut avancer dans les
rues. Exactement. Et les gens, en fait, c'est bluffant. Les gens, ils sourient, ils disent « Ah, comment tu vas faire ça? Tu as acheté ça où? Est-ce que je peux essayer ?» C'est un petit peu drôle.
Ça participe aussi à une sorte de changement de regard, Amine Metani, sur les handicapés. Je sais que vous aimez bien citer la définition de l'OMS. C'est quoi la définition de l'OMS du handicap, Amine Metani ?
Donc ça définit le handicap comme une pathologie de la société, incapable d'inclure tout le monde dans toute sa diversité. La question de savoir pourquoi on aime ou on n'aime pas la notion d'homme réparé, elle a trait justement à cette normalité. Qu'est-ce qui est normal, finalement ? Et vouloir réparer l'homme, c'est vouloir le ramener à une certaine définition de la normalité. Or, une des choses qui définit l'humain, c'est peut-être de s'adapter, en tout cas depuis qu'il est homo habilis. Et je préfère le définir comme l'homme adapté, puisqu'on va s'adapter avec ce qu'on a, avec les outils dont on dispose.
l'homme adapté avec les outils dont on dispose, le chercheur adapté aussi, parce que ce qui est étonnant dans ce laboratoire hein, qui réunit pas mal de sportifs hein, quand même et de handicapés, c'est qu'au fond, vous n'êtes pas un expert en électrostimulation, mais vous êtes un chercheur et du coup vous êtes aussi un expérimentateur avec Amine, des dispositifs qu'on peut faire. Vous êtes quoi, entre les deux, à la fois chercheur et expérimentateur sur vous-même ?
C'est clair, ouais, je suis mon propre cobaye dans un sens. Je ne suis pas un expert dans la neurostimulation. Pas avant, hein, j'ai commencé à avoir une petite expertise quand même. Mm-hmm. Mais ma rôle, c'est plutôt communicateur. Je suis handicapé et je sais communiquer avec le monde scientifique. Et je me sentais privilégié d'avoir cette possibilité de communiquer à le chercheur le besoin de le handicapé. Et aussi gâté parce que je reçois la technologie dernier cru et je peux expérimenter moi-même avec la nouvelle technologie qui est un petit peu comme un enfant de Noël qui ouvre un nouveau paquet, qui peut jouer avec le dernier jouet.
Enfin, jouer et vous entraîner, oui Amine ?
Je pense que Vance est un peu trop modeste, ouais. Parce que je vois un peu son rôle plutôt comme un rôle de catalyseur que juste un rôle de communicateur.
Catalyseur entre les chercheurs et le monde du handicap aussi
Entre les chercheurs, le monde du handicap, le milieu hospitalier, ouais. et la communauté de patients.
D'ailleurs, vous avez fondé cette association à HANDS pour faire passer la recherche à la communauté de handicapés. On y viendra aussi, il y a une start-up Circle pour développer des dispositifs de tricycle couché pour pouvoir entraîner ses muscles. Vous allez participer au Cyberthon à Zurich. Bientôt, vous vous entraînez hein, parce que vous êtes un grand sportif. Et puis, vous allez ouvrir très bientôt une salle de sport à Lyon dédiée au handicap moteur. On va y revenir juste après votre choix musical. Vance Bergeron, I'm still standing. Et oui, toujours debout. C'est Elton John sur RFI. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide. In a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Autour de la question sur RFI.
I'm still standing sur RFI, plus qu'un choix musical, Vance Bergeron. C'est presque une profession de foi assumée avec énergie et humour en plus.
C'est vrai.
Vous avez beaucoup d'énergie, il faut le dire, à la tête de votre équipe de recherche en neuro-rééducation. Et on a parlé du sport, vous êtes un grand sportif. Le sport, c'est un véritable moteur à tous les niveaux et sans mauvais jeu de mots, Vance Bergeron.
Ah oui, c'est pour moi, le sport, c'était toujours partie de ma vie, et particulièrement le vélo. Hein, mon sport de prédilection, c'est le vélo. Et c'est quelque chose que j'ai fait chaque jour avant. Hein, et c'est quelque chose que je comptais, j'ai commencé à refaire déjà, et j'ai compté à faire encore plus. J'aime bien l'aspect des exercices, mais aussi l'extérieur, dans la montagne, se sentir avec la nature et aussi le physique. C'est quelque chose qui est vraiment un moteur, et c'est la chose qui me pousse aujourd'hui pour continuer à retrouver ces sensations.
C'est-à-dire qu'en fait, là, grâce à l'électrostimulation, vous pouvez retrouver les sensations dans vos jambes. Vos jambes peuvent pédaler et vous pourrez pédaler dans la nature, refaire des cols comme vous le faisiez avant.
Oui, tout à fait. En fait, par moment, je me trompe moi-même quand j'arrête l'électrostim. Ça ne bouge plus les jambes. J'ai dit, comment ça se fait? Parce que quand je fais le vélo avec l'électrostim, je sentais bien les sensations des muscles qui contractent, et je vraiment me transporte comme avant, comme quand j'étais en vélo avant.
Mais du coup, ça, c'est un grand intérêt, et c'est bien pour ça que vous allez également ouvrir une salle qui s'appelle Sport, hein, c'est encore un autre acronyme à Lyon, oui. Dédiée au handicap moteur. C'est parce que finalement, ça permet quoi, de retrouver des sensations et en même temps d'améliorer, il y a vraiment des bienfaits pour le corps.
Oui, d'abord, c'est le bienfait pour le corps, comme vous avez bien de dire. Et en fait, comme ça, c'est important pour tout le monde de faire l'exercice. C'est encore plus souligné pour nous parce qu'on ne bouge pas. Et ça peut entraîner la maladie secondaire. Et c'est essentiel pour nous, pour faire le sport, pour faire bouger. En anglais, you use it or you lose it. Mm-hmm. Et ça,
tu t'en sers ou tu le perds, ou tu les muscles.
Exactement, hein. Tout à fait. Et donc, d'abord, l'ouverture de la salle de sport, c'est pour tout le monde, tout le monde qui sont handicapés, avoir l'accès des les machines qui sont là pour eux.
C'est-à-dire que chaque personne handicapée qui s'inscrit pourra bénéficier de cette électrostimulation et retrouver ces mouvements-là.
Oui, si ils sont en bonne santé, mm-hmm. Et ils sont santé, ils sont suffisamment à faire ce genre de manips. Mais c'est aussi un lieu de social, les gens peuvent rejoindre et communiquer, parce qu'on ne trouvait pas beaucoup de place à l'extérieur de l'hôpital où on peut avoir un endroit pour faire le sport, pour qu'on, entre nous, tous ces quotidiennes. On fait esprit aussi pour, dans notre salle de sport, pour avoir le mur qui ne sont pas blanches, qui sont colorées, qui sont accueillantes, quoi. Et le plus non médicalisé possible, quoi.
Amine Metani, comment est-ce qu'on travaille justement? Je sais que vous travaillez sur ce dispositif dans la start-up Circle pour développer un tricycle couché, c'est ça? Comment est-ce qu'on travaille pour monter des dispositifs électrostimulation qui permettent à des handicapés de faire du vélo, voire de skier, de surfer? Puis je crois que ça fait partie aussi des projets de Vans.
En fait, au fur et à mesure du travail qu'on effectue avec Vance, on s'est aperçu qu'il y avait des piliers qui étaient essentiels pour que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier des dernières avancées en matière de rééducation. Et le premier de ces piliers, c'était de rétablir le contact entre les chercheurs et la communauté de patients. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association ANTS avec Vance.
Parce que les chercheurs cherchaient de leur côté et les patients étaient laissés de côté de l'autre. Enfin, en gros.
Parce que régulièrement, ce qu'on constatait en assistant à des congrès scientifiques, c'était de voir qu'il y avait des médecins, des ingénieurs qui travaillaient à des dispositifs qui étaient absolument extraordinaires du point de vue de l'ingénierie et pour lesquels ils cherchaient des patients. Ce qui est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. En revanche, c'était pas suffisant parce que ce qu'il faut faire, c'est également industrialiser les prototypes qui vont être développés au laboratoire.
Ah, pour que tout le monde puisse en bénéficier, c'est ça?
Exactement,
hein,
parce que les chercheurs ne sont pas forcément des entrepreneurs.
Bien sûr.
Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'également mener un projet entrepreneurial qui vise à faire du transfert technologique, donc aller chercher des prototypes qui sont sur les paillasses du laboratoire, puisque les chercheurs, leur travail s'arrête finalement lorsqu'ils ont réalisé une preuve de concept. Mm-hmm. Mais de là à ce que cette preuve de concept soit utilisable de façon simple au quotidien et efficace dans la vie de tous les jours, c'est un autre travail qui est plutôt celui de l'entrepreneur.
Voilà pourquoi donc, vous avez fondé cette association et cette start-up autour du sport, de la science et du handicap. En même temps, on a l'impression, alors vous y participez, mais que le regard de la société change un petit peu, on va dire, sur le handicap, notamment grâce alors, à des sportifs de haut niveau, puisque dans votre laboratoire, beaucoup sont des sportifs de haut niveau, notamment grâce au handisport hein, qui rassemble de plus en plus de spectateurs. Est-ce que ça aussi, le fait de faire du sport dans une vraie salle et en plus de haut niveau, ça peut permettre de changer le regard.
Changer le regard dans quel sens tu parles?
De la société sur le handicap. Oh,
sûr, oui, ça c'est clair et c'est bien. On est aussi hébergé au plein milieu de le campus à UNS.
Oui, à l'École normale supérieure de Lyon.
Exact. Et ça se rend encore plus fort parce qu'on a les élèves qui sont autour des nus. Et je pense que c'est très important. Notre salle, elle n'est pas coincée dans un coin au bout de la route. Il est en plein milieu de le campus. Et on partage quotidiennement avec des élèves. Et je trouve cet aspect de ce qu'on fait très important aussi, parce que c'est une nouvelle ouverture pour eux. Et ça va, comme vous avez cité, ce changement de le regard du handicap, et il est présent, et c'est l'avenir, c'est le jeune qui va mener ce combat.
Autour de la question comment changer de regard, et puis aussi comment se dépasser, parce que tout de même c'est aussi de cela qu'il s'agit, je propose d'écouter une athlète médaillée d'or, elle s'appelle Marie-Amélie Le Fur, amputée d'une jambe suite à un accident de scooter. Elle est détentrice de 8 médailles lors des Jeux Paralympiques, dont 2 médailles d'or lors de la dernière édition à Rio. Écoutez son témoignage, recueilli par le psychologue Hubert Ripoll, qui a travaillé sur le mental des champions et sur la résilience par le sport. Amélie Le Fur, dans la voix de Caroline Fillette.
Je ferai toujours en sorte que la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité » corresponde au sens que je veux donner à ma vie. Ce n'est pas parce que l'on est en situation de handicap que l'on doit arrêter de rêver. Le handicap prive certainement de beaucoup de choses, mais certainement pas de rêver. J'ai un imaginaire qui est important. Imaginer permet de se projeter et ça me permet d'avancer. Cela m'a été très utile après mon accident, parce que sans cette part de rêve, je n'aurais pas pu aller de l'avant. On se perd soi-même dans le handicap et on ne sait pas ce dont on sera capable. Et comme on ne le sait pas, on se met à rêver de quelque chose qui peut être inatteignable. Ce sont des choses qui resteront peut-être des rêves, mais qui aident à la reconstruction. Bien sûr, je sais quelquefois que ces rêves sont inatteignables, mais j'accepte de partir dans ce voyage-là. Et si l'on n'atteint pas son rêve, on le transforme, on le vit différemment, avec d'autres personnes et dans d'autres conditions, quelquefois même par procuration. On peut vivre avec un rêve qui n'est pas abouti, mais on ne peut pas aboutir sans rêve.
Quel est votre rêve à vous, Vance Bergeron? Vous vous entraînez, je crois, pour le prochain Cyberthon à Zurich, c'est ça?
Oui, c'est ouais, ça. Mais j'aime bien ce discours qu'on vient d'écouter, mm-hmm. parce que ça me rappelle quand j'étais le centre de rééducation et je vois les gens autour de moi qui sont brusquement plongés dans le monde handicap. Mm-hmm. Et pour avoir ce rêve, pour avoir projet, mm-hmm. On sait pourquoi on lève le matin. Si on n'avait pas une bonne raison pour lever le matin, c'est dur. C'est dur pour sortir de la lit. Et cette notion de rêve, c'est vraiment important. Et pour moi, le rêve, c'est pour vivre. Et pour vivre, pour moi, ça veut dire participer avec mes enfants, faire ma boulot de surfeur, faire le vélo, toute ma passion. Et j'ai continué, depuis avant l'accident et après l'accident, j'ai continué ma passion. Je partage avec mes enfants, je fais ma boulot de surfeur et je fais le vélo. Qu'est-ce qu'on peut demander plus dans la vie
Le Cyberton, peut-être, à Zurich,
ouais,
en 2020,
ouais,
c'est ça, vous vous entraînez quand même.
Oui, ça. C'est en fait, c'est une compétition dédiée pour, comme le JO, mais c'est pour les athlètes avec l'aide des technologiques. Et le Cyberton lui-même, c'est une vitrine pour faire voir, c'est pas un but en lui-même. C'est une bonne vitrine, c'est sympathique pour rejoindre, c'est très important pour la communication avec le public. Mais le Cyberton lui-même, c'est pas ma rêve. C'est la participation qui est le plus important pour moi.
Participer à cette compétition et être dedans.
Oui, mm-hmm. Mais par exemple, dans l'association, on organisait la sortie. Mais avec l'axe que on essayait pour inclure le plus le monde possible. Malgré tout, dans un événement comme le Cyberton, les athlètes sont sélectionnés. C'est pas beaucoup qui fait la compète. Hein. Mm-hmm. On est entraînés, etc. Et on peut faire. Mais ce que je préfère faire avec mon temps, c'est pour pas nécessairement faire le compète très précise dans un domaine, mais pour avoir une ouverture pour tout plus de monde peut faire son compète et avoir son propre
ton propre
objectif.
Dépassement de soi, hein, c'est ça.
C'est ça, exactement.
Le contraire de la paralysie, en fait, hein, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça. Et donc, je ne vois pas le Cyberton comme un rêve. C'est une bonne communicateur, c'est sympathique, mais ma rêve, c'est vraiment de promouvoir ça pour avoir le plus possible à faire. Donc, dans la sauce, on fait la sortie à vélo. Bientôt, on va faire la sortie nautique. Et ça, c'est pour ramasser tout le monde et chacune, adapter hein, les engins pour le plus possible pour participer.
Ouvrons-nous aux autres à l'écoute d'une de vos productions musicales, Amine Metani, car vous êtes aussi musicien et producteur d'Arab Stasi, une plateforme qui s'intéresse aux musiques électroniques dans le monde arabe. On écoute Dead Traveler du groupe The Triangle. Traveler, une expérience à vivre sur la plateforme arabe Stasi. Amine Metani, le chercheur que vous êtes, a plusieurs cordes électroniques à son arc avec peut-être à chaque fois, comment dire, l'idée de sortir du regard habituel sur les autres. Je vais y aller avec mes gros sabots, mais qu'ils soient arabes, handicapés, on peut s'y prendre autrement.
Oui, c'est un peu surprenant comme...
Comme accroche, ben oui, ouais. J'y vais carrément, je mets les pieds dans le plat, hein, puisque avec Vance, c'est un peu ce qui s'est passé.
Mmh. Oui, c'est sûr. On est toujours dans le changement de regard. Là, ce qu'on a écouté, c'est un morceau extrait d'une compilation donc qui est paru sur notre plateforme et dont tous les bénéfices ont été reversés à une ONG libanaise qui travaille avec les réfugiés, qui travaille sur ce changement de regard. En organisant un festival de musique à Beyrouth, où ils font participer justement des réfugiés. Donc en ce moment, les réfugiés sont plutôt syriens. Mmh. Ce morceau en parle aussi, puisqu'il parle des personnes qui meurent en mer avant même d'avoir le privilège de devenir des réfugiés. Et du coup, le lien, c'est que le changement de regard qui s'opère sur le monde du handicap, il est pas, pour nous, il est pas fortuit. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche. C'est presque une volonté politique de notre part, puisqu'on constate que souvent, il y a une infantilisation des personnes en situation de handicap qui vont pas avoir le droit, par exemple, de pratiquer certaines activités. Et donc, on travaille sur un changement de regard par rapport aux personnes en situation de handicap qui ne sont pas incapables de faire certaines choses, qui vont pas forcément être tout le temps dans un milieu médicalisé, mais qui vont simplement, comme tout le monde, pratiquer une activité physique.
Autour de la question que peut la science et que peuvent les nouvelles technologies justement pour le handicap, les recherches avancent aussi du côté des aveugles justement, puisqu'on parlait de changer de regard, des aveugles qui, comme vous Vande, sont aussi de grands sportifs. Notre reporter Charlie Dupiot a été voir du côté du centre de mathématiques appliquées de l'école polytechnique à la rencontre d'un chercheur, Sylvain Ferrand, qui travaille depuis près de 2 ans avec un athlète de roller aveugle, il s'appelle Stéphane Le Sieur. Ils travaillent ensemble sur un nouveau dispositif de guidage. Il teste un casque de guidage sonore attaché à un GPS avec un parcours sonore à suivre. Charlie Dupiot a assisté en région parisienne à une séance d'entraînement de course à pied.
Du coup, Stéphane, je te propose de t'équiper avec le dispositif. Ah, ensuite, je vais te mettre dans l'ordre le casque.
Et alors, pour décrire ce casque, Sylvain Ferrand, on voit donc c'est un casque de vélo sur lequel on a accroché objet étrange.
Ouais, on a accroché une sorte de gyroscope qui permet de connaître l'orientation de la tête et donc de savoir dans quelle direction Stéphane regarde, en fait, comment il oriente sa tête, comment il la tourne. Et puis sur ses épaules, il y a aussi un capteur GPS. Alors c'est un GPS qui est un petit peu particulier parce qu'il est plus précis que les GPS classiques. Et c'est le dispositif qu'on utilise pour l'extérieur. Et comme ça, on peut connaître à la fois la position de Stéphane, précisément à quelques centimètres près, et aussi l'orientation de sa tête. Et une fois qu'on connaît, qu'on a toutes ces informations, on peut placer une source sonore virtuelle devant lui, et la source sonore va décrire un trajet, et au fur et à mesure que Stéphane va avancer, la source sonore va avancer aussi.
Et la source sonore, c'est ce qu'il entend dans le casque, là.
Il entend dans le casque, voilà. Il va avoir un petit peu le sentiment, cette sensation de suivre un son. C'est ça, en fait, on va essayer de donner à Stéphane l'illusion qu'il y a une source sonore qui est devant lui et qui va suivre. De la même façon qu'en fait, il suit son guide habituellement, qui suit Baudouin, en écoutant le bruit de ses rollers. Donc, on essaie de reproduire ça.
Et là, vous entendez quoi, par exemple?
Là, j'entends un petit bip qui est en boucle.
Donc vous, ce qui est intéressant avec ce projet de recherche, c'est que c'est vraiment appliqué et fabriqué, testé en continu grâce à cet athlète de roller et qui fait aussi de la course à pied du coup pour s'entraîner, Stéphane Le Sieur.
C'est ça, en fait, on essaie d'avoir un peu une démarche itérative, c'est-à-dire que on teste, on améliore et toujours en lien direct avec les utilisateurs, en l'occurrence avec Stéphane. On a constaté, enfin dès qu'on a testé, que on pouvait pas mettre un casque standard sur les oreilles d'une personne aveugle, qu'il y avait des sons qui étaient plus agréables que d'autres, même certains qui étaient complètement inadaptés. Et puis, Stéphane, pour nous, il joue vraiment un rôle d'expert.
C'est pas seulement de cobaye.
Moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un expert parce que il va nous guider, il va nous dire ça c'est pas du tout adapté. Enfin, il est expert dans son domaine, c'est-à-dire en audition. Enfin, il entend des choses que nous, on n'entendrait pas. Il est capable de faire de l'écholocalisation.
Donc se repérer grâce à l'écho, hein, des sons.
Oui, il est capable de faire ça parce qu'il est habitué depuis son plus jeune âge et il est capable de se rendre compte qu'il est, par exemple, dans une pièce d'une certaine taille, qu'il est capable de dire qu'il a un mur devant lui, derrière lui. Il est même capable d'évaluer à peu près à la distance de murs qui sont près de lui. Et ça, c'est une faculté qui se développe, qu'on est capable d'apprendre même quand on est voyant, mais que c'est très difficile pour nous.
Vous voulez réagir, Vance Bergeron, à ces propos du chercheur Sylvain Ferrand et de l'athlète Stéphane Le Sieur sur cette collaboration? Pour les aveugles, il y a aussi d'autres procédés de cannes blanches électroniques en préparation, des choses comme ça. Mais toujours dans ce lien aussi, science, handicap et sport.
D'abord, quand j'ai écouté ça, c'est un grand sourire qui était sur mes lèvres, mm-hmm. parce que comme scientifique et pour entendre ce genre de choses, c'est vraiment beau. Parce que je pense que c'est un bon exemple de comment on utilise les outils de tous les jours. Hein, avec notre téléphone portable, on a tous cette géolocalisation. Mm-hmm. Et pour rendre ça lucide pour les gens qui n'avaient pas le vu, c'est vraiment magnifique et je félicite cette démarche. Hein. C'est beau et c'est exactement ce que nous souhaiterions faire. Utilise la technologie pour surmonter, dépasser les choses qui nous empêchent pour vivre. Et dans un sens, on est tous handicapés. Hein, ça me rend ravi parce que c'est exactement le genre de démarche nous essayons d'appliquer ici à Lyon.
Voilà. Amine Metani, Vente disait qu'on est tous handicapés. Enfin, je sais pas si on est. Enfin, je pense qu'on est probablement tous handicapés, mais probablement tous avec les mêmes ressources que ces handicapés sportifs avec qui vous travaillez et que ces chercheurs comme Vente. Enfin, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que ce sont des gens un peu particuliers? On parle d'hommes augmentés ou d'hommes réparés, mais augmentés de nature, j'ai envie de dire.
En fait, ça revient à ce qu'on disait en tout début d'émission. Mm-hmm. Dire que tout le monde est handicapé, c'est la même chose que de dire que si la société permettait d'inclure tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde puisse pratiquer l'activité qu'il souhaite, personne ne serait handicapé.
C'est pas faux. Alors cette aventure humaine, scientifique et technologique que vous vivez ensemble dans ce laboratoire, elle est très stimulante, sauf qu'évidemment, elle soulève aussi pas mal de questions. Un cyberathlète augmenté, ça pose de vertigineuses questions. Écoutez celle que vous pose tout de suite Loïc Mangin du mensuel Pour la Science.
Comment faire pour que ça reste du domaine de l'homme réparé et pas de l'homme augmenté avec toutes les dérives que ça pourrait entraîner, quoi. Par exemple, ça peut aussi avoir des applications militaires, j'imagine. Donc là, c'est pas de l'homme réparé, c'est du soldat augmenté. Donc d'une part, est-ce qu'il faut installer une frontière entre ces deux domaines, entre la réparation et l'augmentation? Et s'il faut pas installer de frontière, quel garde-fou il faut installer entre les deux, quoi? Quel poste de douane, si je file la métaphore de la frontière?
Avez-vous des pistes de réponse, Vance Bergeron ou Amine Metani, à ces questions compliquées dans le documentaire Toujours Debout? Vous ne les évitez pas, hein, ces questions qui fâchent.
Oui, moi je vois les choses comme l'utilisation des outils d'augmenter, c'est quelque chose très humain. En fait, c'est presque la définition des humains. On voit pas les autres animaux qui utilisent les outils comme nous. Mm-hmm. C'est un bâton ou quoi que ce soit, de toute notre origine de humanity. Et ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est simplement de faire ça avec les choses un petit peu plus technologiques, un petit peu plus avancées, entre guillemets. Mais le démarche lui-même, il est pareil. Il utilise les outils pour aider dans notre vie et notre survie, si tu veux. C'est clair, il y a toujours le yin et le yang, hein. le mauvais côté, on a déjà
eu. Oui, la mauvaise utilisation de ces outils. Ouais, et quand c'est implanté dans le cerveau, voilà, on sait.
Le débat avec le nucléaire, c'est un bon
Absolument.
Exemple. L'énergie nucléaire et les bombes nucléaires, c'est le yin et le yang dans ce domaine-là. Et en fait, je pense que la chose la plus importante qu'on peut faire, c'est pour parler de ça. Parce que si on parlait de ça, on va avoir une prise de conscience et ça peut nous aider à avancer dans la direction qui est la plus saine et l'utilisation qui est la plus saine. Mais c'est un combat, ça va être toujours un combat, c'était toujours un combat et ça va être. Et la façon à combattre, pour moi, c'était pour discuter et pour mettre ça devant la scène et pour les gens pour rationaliser l'utilisation de les technologies dans le meilleur.
Donc ne pas éviter, oui, Amine Metani.
Je disais ne pas discuter ça qu'entre chercheurs. La responsabilité, elle est générale, elle est sociétale.
Et puis tout dépend d'où on parle et du point de vue où on se place, évidemment, parce que il n'y a pas vraiment le choix en général quand on sait que la technologie est mature et quand on sait le quotidien d'un handicapé. Toujours dans ce documentaire, hein, toujours debout, documentaire très inspirant, vous avez des échanges de ce genre avec Michel Sorine, qui est chercheur aussi dans votre laboratoire HANS, paraplégique suite à un accident et doté d'un sacré sens de l'humour. Sur son blog, je le cite pour donner la patate aux légumes. On écoute Michel Sorine.
ce matin, je prends le bus pour aller au kiné. Et le bus dévié à cause des travaux sous la trémie. Il voulait me poser à Bellecour, donc il m'a posé comme un chien Colafayette. Je suis allé chez le kiné tout seul, je me suis un peu râpé contre un mur. Je suis arrivé en retard, enfin c'était l'horreur. Vive le handicap.
L'humour de Michel Sorine, qui a décidément la patate pour un légume, travailler avec, justement, avec des chercheurs qui sont quand même, alors des chercheurs avec un vrai cerveau, mais des grands sportifs aussi, et qui traversent dans leur vie des épreuves extrêmement difficiles, et le handicap, est-ce que ça change justement le quotidien? Je m'adresse à tous les deux, hein, à Vance et à Amine.
Change de quotidien, ça c'est sûr, certain. Quotidien vis-à-vis la vente, ça c'est évident. D'abord, je recommande tout le monde à jeter un œil sur le blog de Michel parce qu'il a une façon d'exprimer son parcours qui je trouve magnifique parce que c'est avec le humour et la passion, mais aussi avec la tendresse et qui je trouve un bon exercice pour tout le monde à lire ce blog. Et oui, ça change de quotidien, mais ça s'installe dans notre quotidien. J'ai un nouveau mode de vie, un nouveau normal, si vous voulez. Et ça, je découvre chaque jour et j'avance pas à pas. Voilà.
Amine Metani, la fréquentation de chercheurs comme Vance et de développer des prototypes qui sont vraiment utiles et qui diffusent ensuite dans la société, ça change votre quotidien?
Ce qu'on vit en réalité depuis 4 ans, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, est unique. C'est-à-dire que on a une interaction qui se crée entre des chercheurs, des personnes en situation de handicap, des médecins. Et ça, c'est des choses que nous, on n'a pas forcément d'outils pour anticiper ça, pour anticiper ce qui peut se passer. Lorsque je travaille avec Julien, par exemple, qui est tétraplégique et qui vient très souvent au labo, Julien n'est pas mon patient, je ne suis pas médecin, ce n'est pas un cobaye, ce n'est pas un collègue, et pourtant c'est tout ça à la fois. Alors quel garde-fou on peut mettre? Ça se passe très bien aujourd'hui, si ça s'était mal passé, qu'est-ce qu'il aurait fallu éviter? Enfin, tout ça c'est des questions qui se posent, qui dépassent largement le cadre de le petit travail scientifique qu'on fait.
Pas si petit que ça, d'autant qu'un laboratoire de ce genre est assez unique au monde, hein, je crois.
Je pense qu'il y a le pilier que nous avons créé en tout début, trois piliers qui sont essentiels pour nous guider. Et ça, c'est un pilier médical. Donc, il faut, pour nous, dans l'association, on a dit qu'il faut avoir un regard médical pour voir ce qu'on fait. Deuxième pilier, c'est le pilier académique, parce que c'est les académiques qui sont au point de la dernière technologie, qui sont là pour nous guider qu'est-ce qui existe. Et le troisième pilier, c'est bien entendu les hommes. Et ça, c'est l'association lui-même. Et ça, c'est une ambiance qui, Amine vient de citer, crée une ambiance de symbiose entre ces trois. Et c'est ça qui je pense, est unique, finalement.
Merci infiniment. C'est ça qu'il nous faut, je suis d'accord. Hein. Merci infiniment, Vance Bergeron et Amine Metani, d'avoir été en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon. Merci à Chantal Nouvelot, à la technique sur place à Lyon. Je vous renvoie, amis auditeurs, sur l'excellent film documentaire Toujours Debout. Et puis, on va vous suivre de près. Vance et Amine, vous revenez quand vous voulez, en direct, en duplex, nous faire partager la suite de vos recherches et de cette aventure scientifique, sportive et humaine.
Merci, Caroline.
Suite demain de nos rediffusions estivales autour de la question « Quelle alliance invisible sous la forêt ?» L'un des plus éminents spécialistes de la forêt mondiale, Francis Martin, nous emmènera dans les réseaux secrets des champignons et autres alliés des grands arbres. Merci de votre fidélité, de votre curiosité, chers amis auditeurs à l'esprit libre et curieux. N'hésitez pas à partager, à nous podcaster sur le site de RFI et sur le site de RFI Pure Radio. Caroline Lachowski au micro, Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Vous souhaitons le meilleur des étés à l'ombre de la radio mondiale. Dans quelques instants, c'est l'heure des informations.